producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale. Messieurs les producteurs de la télé à vision, regardez-moi, regardez-moi, voyons. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler laïcité, une chance pour la France. On est accompagné de Jean-Pierre Wesselberg. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, on vous avait reçu il y a quelques années, notamment avec l'association Agora 21, où vous organisiez des débats à Compiègne et dans le Compiénois. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'une esplanade de la laïcité, mais avant ça, on va revenir peut-être sur 2015, vous avez déjà inauguré une place de la laïcité à Marny-les-Compiègne, et notamment un arbre de la laïcité. Du coup, aujourd'hui, 120 ans plus tard, c'est l'anniversaire de cette loi de 1905. C'est quoi la loi de 1905 de la laïcité ?
Ben, c'est en fait la loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Ça veut dire que les églises chez elles et l'État chez lui, et les églises ne doivent pas entretenir de relations public avec l'État.
Alors, à l'époque, c'était l'Église catholique qui était très puissante. Aujourd'hui, toutes les religions prennent de l'ampleur, notamment on parle des musulmans, on parle de la religion juive. C'est quoi aujourd'hui ? Comment on peut se situer sur la laïcité ? Est-ce qu'il y a une différence entre 1905 et aujourd'hui ?
Oui, il y a une grosse différence, parce que je me permettrai de vous rappeler que depuis la nuit des temps, les églises ont toujours fait la guerre et pour s'approprier le pouvoir politique. Aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais on est encore dans une situation où les églises partout dans le monde veulent s'approprier encore une sorte de pouvoir. Alors, je dirais pas politique, mais voilà, on est actuellement sur la planète avec des guerres un peu partout, et cette histoire de 120e anniversaire de la loi sur la laïcité, on dit toujours une laïcité à la française. En fait, de par le monde, il n'existe qu'une seule loi sur la laïcité, c'est en France, même si dans d'autres pays, je vais vous surprendre, par exemple l'Uruguay, avec le passé qu'on lui connaît, le 9 décembre, c'est une journée de la laïcité chômée payée. Je pense que personne ne sait ça.
La loi 1905, c'est la pierre angulaire de la laïcité en France, ce qui permet un peu le traitement égalitaire entre tous les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les deux premiers articles de cette loi ?
Alors, c'est... Ah oui, absolument. Alors, les deux premiers articles sont ceux-là. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors, il y a une exception, c'est l'Alsace-Moselle.
Avec le Concordat.
Avec le Concordat.
Où là, c'est la collectivité, c'est l'État qui finance tous les cultes.
Absolument.
Donc pour les curés, pour les prêtres, pour les imams, c'est payé par l'État.
Oui.
Est-ce que ce ne serait pas une solution aujourd'hui pour éviter qu'il y ait des forces étrangères qui viennent financer, alors de faire financer justement les cultes par la collectivité, qu'il y ait une subvention qui leur soit attribuée ?
C'est une bonne idée que vous lancez là. Je crois quand même, si vous voulez, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette ça sur la table. On essaye de l'oublier. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'histoire des diverses religions, effectivement, la religion musulmane n'était pas prévu dans l'article, dans la loi de 1905, puisque elle existait, mais elle n'était pas sur le devant de la scène. La religion juive, ça me paraît peanuts, parce que, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, il y a sur la planète 18 millions de juifs uniquement par rapport à 8 milliards d'individus. Donc vous voyez que ça ne pèse pas grand-chose. Alors évidemment, les antisémites montrent ça du doigt, les juifs ceci, les juifs cela. Mais à mon avis, ça ne pèse pas grand-chose. Même si on peut considérer qu'aujourd'hui, avec les événements au Moyen-Orient, on nous montre du doigt.
C'est sur le devant de la scène.
Oui.
Vous avez été réserviste de l'éducation nationale. Quel constat vous faites par rapport aux jeunes? Alors, on parle de la religion. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un repli communautaire. À l'époque, c'était plutôt la politique. On s'engageait en politique. On était marxiste, maoïste, enfin, peu importe le courant de pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas plutôt un attrait sur la religion? Parce qu'en fait, ils ont rien d'autre.
C'est intéressant ce que vous dites. Alors, moi, j'ai beaucoup appris des jeunes. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que les jeunes avaient des idéaux de justice et qu'ils étaient prêts à appliquer les valeurs de la République à condition que les adultes leur montrent l'exemple. Et je vais rappeler un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Dans un collège que je nommerai pas par souci de discrétion, je parle des valeurs de la République et de la laïcité, et une jeune fille de 3e, environ 14 ans, elle était d'origine maghrébine, lève la main et dit innocemment « Monsieur, comment se fait-il que l'on m'interdise de porter un foulard et que ma professeure porte une croix sur son corsage ?» C'était la bonne question. Et le principal à mes côtés a convoqué cette enseignante. Je ne sais pas ce qui est advenu après.
On parle souvent de tradition. Enfin, il parle de tradition pour appeler la religion en disant que les crèches, c'est la religion, les églises, c'est la religion. C'est pas la religion, c'est plutôt l'héritage, enfin plutôt oui. Voilà, le passé de la France. Du coup, c'est quoi qu'on peut opposer à ce discours-là en disant bah oui, c'est l'héritage, mais en fait, c'est pas l'héritage majoritaire?
Eh bien, on peut opposer à ce discours-là le poème d'Aragon, « La rose et le réséda » en fin 43, je crois, ou début 44. Et Aragon, qui était dans la Résistance, un grand poète, et qui a demandé à tous les Français, qu'ils soient croyants ou non-croyants, de se réunir pour résister. Et c'est pour ça que ce poème, La Rose et le Réséda, que l'on soit croyant ou pas, enfin de mémoire, et ça m'avait beaucoup marqué. Et puisque vous me donnez l'occasion, moi je veux rappeler quelque chose. Mon épouse fait depuis 4 ans des recherches généalogiques. Et elle a trouvé que mes parents étaient des résistants pendant la guerre. Leur nom de guerre était les époux Duchesne. Et moi, je suis né Jean-Pierre Duchesne. Et je n'ai retrouvé mon véritable nom qu'après la libération. Et mes parents ne m'ont jamais... Ils sont décédés il y a longtemps et ils ne m'ont jamais rien dit. Et l'année dernière, le 22 juin 2024, à 30 km de Grenoble où je suis né, eh bien, on a inauguré une stèle au nom de mes parents, de ma tante Ethel, des résistants du coin. Et il y a même sur cette stèle le nom de l'abbé Pierre, qui depuis a été enlevé avec les histoires qu'on connaît. Donc voilà, ça veut dire aussi que c'est ce que j'appelle les résistants de l'ombre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas transmis ça. J'ai discuté avec des psychiatres et les psychiatres disent... Après la guerre, on ne parlait pas.
Le terme Duchesne, est-ce que le terme de la symbolique de l'arbre, le fait d'être enraciné, l'arbre vit aussi en communauté avec plusieurs arbres, est-ce qu'il y avait, vous pensez qu'il y a une symbolique derrière le nom choisi ? le nom de résistant ?
J'imagine, et je vous signale que les arbres de la laïcité que j'ai plantés ici ou là, et notamment à Marny-les-Compiègnes, sont des chênes verts qui ne se déflorent pas et qui donc y restent avec leurs feuilles toute l'année. Et j'ai planté aussi, j'en suis à mon huitième, un arbre de la laïcité dans la cour d'une école à la Gorce, en Ardèche, où je vis quelques mois de l'année. Et cette cour d'école, l'arbre de la laïcité, c'est une première en France, parce qu'il y a eu des arbres de la laïcité et de la paix plantés ici ou là, mais jamais dans une cour d'école publique.
On va faire une courte pause musicale avec un extrait de la programmation de Graphite, le titre Oxmo Puccino, avec le titre Ne pas m'aimer.
L'enfer c'est de ne pas m'aimer, au mieux l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance? La gentillesse dans le conduit auditif. Solar ne pleure plus, vous serez aussi positif. On va cacher le paradis derrière un calembour. La mission pour l'univers des rappeurs de l'amour. Jamais à l'amour, ami confidentiel. Mon verbe tombe de là-haut, confidentiel.
C'est confidentiel mais faut le rendre public. Parfois l'exceptionnel peut devenir plus cyclique.
Carreau qui pique ton cœur, la faute a pas de chance. J'ai la solution, mille appels en absence.
Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer?
Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer.
On ne peut pas ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser. On ne peut pas
ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser.
Tu ne peux pas.
Ox, mate le paradoxe. Flow hors de la boxe qu'on détecte l'intox. Vrai que le rasta a des locks. Qu'avec les mots tu boxes, les cymbales font x. J'ai trouvé l'inspiration chez Olympe de Gouges. Et si tu vois des bananas bleues ou rouges bouge. Reprocher à l'Égypte les pyramides de Gizeh. Si oublier le fond, tu ne peux pas ne pas nous aimer.
Chaque jour je cultive l'envie, aucun conseil à offrir, suffit de lire nos vies. On a traversé les titres de livres d'Émile Zola. Faut porter le N-word pour haïr Solar.
Mama Lova, ils se pavanent dans des govas. Ne veulent pas connaître la slola que leur dire avant le go fast.
On pèse plus qu'une tonne de rumeurs.
Nous vous laissons plus que de bonne humeur.
Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer?
Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer.
On ne peut pas ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser. On ne peut pas
ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser.
Tu ne peux pas.
Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer?
Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer.
Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer?
Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer.
Tu ne peux pas.
Oxmo Puccino, nouvel album sur les ondes du 94.9, www.graphite.net, également disponible sur internet. Et maintenant, si vous voulez nous prendre dans vos poches, et bien vous pouvez prendre vos smartphones avec notamment une petite application qui s'appelle Radio Player, où vous pouvez écouter plein de radios françaises et également des radios associatives, hein, puisqu'en ce moment, on vous le rappelle, on est un peu en lutte pour sauver nos subventions avec le PLF 2025, où on veut nous baisser de 40% les subventions, donc allez faire un petit tour pour soutenir les radios associatives. Jean-Pierre, on va continuer de parler de la laïcité, et notamment de cette esplanade de laïcité à Marny-les-Compiègnes. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2015, vous avez déjà inauguré la place de la laïcité. Là, cette année, c'est l'esplanade, donc on grandit encore une fois. C'est quoi le rapport entre Marny et la laïcité, puisque souvent, vous organisez des choses sur Marny-les-Compiègnes. Bernard Hélal est plutôt un personnage laïque, contrairement à d'autres maires de la communauté de communes.
Vraisemblablement, de par ses origines.
Il est pieds noirs, c'est ça ?
C'est ça, il est pieds noirs. Il est arrivé en France, je crois qu'il avait 7 ans. Il le dit d'ailleurs dans son discours de remise de la Légion d'honneur. Il est descendu d'un bateau, il avait 7 ans. Il ne parlait pas le français. Et voilà. Alors, pour la petite histoire, En 2015, c'est-à-dire il y a 10 ans, je prononce un discours où je rends hommage à tous les disparus sur la place de l'hôtel de ville à Compiègne, tous les disparus par les attentats, vous vous rappelez, en 2015. Et puis, par hasard, le maire de Marny-les-Compiègne, Bernard Halal, se trouvait pas loin de moi, et je lui lançais « Monsieur le maire, pourquoi pas une place de la laïcité à Marny-les-Compiègne ? » Et il m'a répondu « Je suis preneur, on pourrait faire une place de la laïcité sur la place de la mairie qui n'a pas de nom. » Ce qui a été fait en mars 2015. Nous avons planté, non loin de la mairie, un arbre de la laïcité, donc un chêne, symbolique fort, devant beaucoup d'élèves et 400 personnes.
Donc là, c'était la première place de la laïcité en Picardie.
Oui.
Du coup, ça essaimait. Il y en a eu d'autres ensuite en France. Les arbres ont été plantés. Déjà, pendant la Révolution, l'arbre était aussi une symbolique particulière. Mais du coup, ça essaimait. Il y a eu d'autres places de la laïcité.
Oui. Alors, en 2016, immédiatement, à la Croix-Saint-Ouen, où j'habite, la place du collège est devenue place de la laïcité. Et dernièrement, au mois d'octobre, à Armancourt, une place de la laïcité devant la mairie. J'ai co-inauguré avec le maire d'Armancourt, Éric Bertrand, une place de la laïcité où il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'élus. Ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, à Armancourt, il y avait 12 maires de l'agglo.
Sur l'ensemble des maires de l'agglo, quand
même. Oui.
Sur une vingtaine de communes, il me semble.
Ouais,
là, aujourd'hui, c'est quoi la laïcité en pratique? On a parlé tout à l'heure de la séparation de l'État et de l'Église, notamment sur les cultes, les financements. Mais par exemple, est-ce que le fait que la collectivité finance et rénove les églises, est-ce que c'est encore une bonne chose? Est-ce qu'on devrait se séparer de ce patrimoine? Où est-ce que ça devrait aller? Parce que c'est un coût pour la collectivité.
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais, ça me paraît essentiel, rappeler quels sont les principes de la laïcité. Pour fonder une société, la laïcité met en jeu 3 principes. La liberté de conscience, cela signifie pour chaque femme et chaque homme le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de choisir en toute liberté son option spirituelle, religieuse, athée, agnostique, voire l'indifférence à toute religion. Ce sera un des rôles de l'école laïque de permettre d'acquérir cette liberté de conscience. Deuxièmement, l'égalité des options spirituelles. Et troisièmement, surtout, je voudrais que, comme je suis dans une radio associative à l'UTC de Compiègne, c'est l'universalité des lois de la République. La loi est la même pour tous, soucieuse du seul intérêt général. La mise en œuvre de ces 3 principes par la laïcité s'effectue par le dispositif juridique de la loi donc de 1905 de séparation des Églises et de l'État. Pour réaliser cette séparation, on distingue une sphère publique et une sphère privée. La sphère publique, c'est l'espace public qui rassemble les femmes et les hommes. C'est la sphère citoyenne, celle où le citoyen évolue socialement, économiquement, politiquement, juridiquement. C'est l'espace où le citoyen entre de plein pied dans l'égalité de droits et les règles y sont clairement établies, fondées sur les droits de l'homme. En gros, dans l'espace public, ce qui rassemble les femmes et les hommes. La sphère privée, maintenant, c'est la sphère personnelle où chacun est libre de ses attaches, de ses croyances, de sa foi, de ses convictions philosophiques, de ses particularismes. C'est le lieu de la liberté absolue de conscience où s'expriment les convictions philosophiques, métaphysiques, les croyances, les pratiques religieuses éventuellement et les modes de vie communautaire. Dans l'espace privé, ce qui divise les femmes et les hommes, par cette séparation, la laïcité concilie unité et diversité. Voilà ce que je voulais dire.
Et sur l'avancée des forces réactionnaires, aujourd'hui, de plus en plus, les forces réactionnaires sont de plus en plus fortes, le populisme, etc. Est-ce que vous avez bon espoir que la laïcité reprenne sa place, ou est-ce qu'il va falloir encore batailler chaque année pour combattre les forces réactionnaires ?
Alors écoutez, ce que vous dites est fort intéressant et interroge le militant laïque que je suis. Nous nous battons, mes amis et moi-même. Moi, je suis très, très engagé. Mais je crois que j'ai une expérience à nul autre pareil. C'est que j'ai fait à peu près 80 ou 90 interventions lorsque j'étais réserviste de l'éducation nationale, où j'ai été nommé par Najat Vallaud-Belkacem quand elle était ministre de l'Éducation nationale. J'ai fait donc 90 interventions dans les Hauts-de-France, à Compiègne, à Lille, à Amiens, et ça a été que du bonheur. Les enseignants font du boulot, mais et j'ai le plaisir à le dire dans une radio associative, aujourd'hui, avec, je ne prononcerai pas de nom, les forces réactionnaires, l'avaient dit, qui prennent le pouvoir médiatique et qui nous, jour après jour, heure après heure, minute après minute, nous envoient des messages qui font douter les jeunes, et pas que les jeunes, mais font douter les jeunes surtout, de ce qu'on leur enseigne. Et je parlais avec un enseignant récemment qui me disait « Et bientôt, on va leur faire croire que la Terre est plate et ils vont le croire. »
On ne bat pas la même force, on n'a pas les mêmes forces. Là, aujourd'hui, vous êtes sur une radio associative. Eux, ils ont, par exemple, CNews et compagnie, ce n'est pas du tout les mêmes moyens. Est-ce que quand même, avec des petits moyens, on peut résister et s'en sortir ?
Je crois. À condition qu'on ait la conviction. La vie, c'est des convictions. À mon âge, je ne dirai pas à vos auditeurs, on pourrait dire que je me mette dans un coin et je profite de la vie. Eh bien non, je continue. Je vais faire une conférence donc à Margny-les-Compiègne, après l'inauguration de l'esplanade de la laïcité, avec un monde et des élèves du lycée, avec un inspecteur d'académie qui va venir d'Amiens, avec des proviseurs de lycée ici, avec monsieur le sous-préfet qui sera présent, qui est intéressé par la laïcité. Donc, je crois que voilà, comme vous dites, fort justement, petits moyens, mais les convictions montrent quand même, quand on se rappelle ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, les petits moyens des résistants, comment ils sont arrivés, minute après minute, conviction après conviction, à faire basculer les choses.
Comment faire pour que la laïcité ne soit pas utilisée pour stigmatiser une minorité, par exemple ?
Ben, vous l'avez dit, je vais le répéter. Quand on ne parle pas de laïcité sur les antennes, quand on n'est pas convoqué à la télévision, c'est les autres qui gagnent. Et moi, je suis très inquiet, je vous l'avoue. Je suis très inquiet parce que comment faire, et c'est un mot essentiel, comment faire pour développer l'esprit critique chez nos jeunes si on les assomme de fausses vérités et qu'il n'est pas, au contraire, qui lit aujourd'hui parmi les jeunes ? Combien lit-on de livres ? J'en sais rien. Vraisemblablement très peu. Et donc, ils ont des vérités acquises qui sont, comment dirais-je, c'est suspect. Et moi, jusqu'à la fin de mes jours, je souhaiterais dialoguer avec des jeunes parce que les jeunes sont les citoyens de demain. On me dit que, par exemple, pour les élections présidentielles de 2027, les jeunes n'iront pas voter parce qu'ils ne respectent plus le personnel politique et que c'est donc les anciens qui vont aller voter, qui risquent de faire basculer le pays à l'extrême droite. Et je me battrai toujours contre ce type de parti politique qui sème la haine au lieu de semer que la concorde ait lieu entre tous les citoyens.
Là, il faut mettre plus de moyens dans l'éducation nationale. La laïcité doit germer en premier dans l'éducation nationale et ensuite grandir dans les familles. C'est quoi l'axe sur lequel il faudrait mettre le plus de moyens?
Alors, c'est sur l'éducation nationale, éventuellement.
Le mouvement associatif aussi?
Oui. Je vous rappelle que vous êtes dans une radio associative qui existe, si mes souvenirs sont bons, depuis 1981.
92, nous.
Nous, 82. Donc, vous voyez, ma mémoire est quand même...
92. Nous, 92.
Oui, vous, 92.
Ouais.
Mais 81.
Ah ouais, c'est la libération des ondes, absolument. Ouais.
Ouais. Et donc, alors, les enseignants me disent qu'ils ont très peu de moyens. Une enseignante, une professeure d'histoire et géographie, par exemple, Damien me disait récemment, on a supprimé nos subventions, on ne peut plus réserver un quart pour aller, par exemple, au Louvre, à Paris. Je le faisais il y a quelques années. Aujourd'hui, je n'ai plus les moyens. Le 9 décembre, à Marny-lès-Compiègne, des chefs d'établissement m'ont dit, on ne viendra pas parce que c'est trop dur. On n'a pas les moyens de réserver un quart pour venir à Marny-lès-Compiègne. Voilà. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous avez pointé du doigt tout à l'heure quelque chose d'essentiel, à partir du moment où on enlève des subventions à l'école publique, on leur enlève la possibilité de montrer aux jeunes qu'il existe d'autres réflexions que la réflexion officielle sur les plateaux de télévision ou sur les radios publiques ou quoi.
Malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Ouais,
et
oui.
C'est aussi un pouvoir émancipatrice, quoi. Plus on a d'argent, plus on peut s'émanciper. On écoute un court extrait de la programmation de Graphite avec encore un morceau nouveau. Ça s'appelle Barbé, ça s'appelle La Moitié dans la Fête. Et on se retrouve juste après pour clore cette émission.
C'est pas la peine de réfléchir, pas la peine de mentir. De toute façon, t'es pas du genre, donc fonce et on démarre. Le monde est devenu terne, même la terre prend des rides. Je veux pas en faire une merde là. Toujours à moitié dans la fête, à moitié dans le vide. Est-ce que les gens font semblant quand ils se sourient? À moitié dans la tête, à moitié sur le fil. Au monde est trop souvent, je me dis. Toujours à moitié dans ma tête. Les gens, je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête. Moi je veux un coin tranquille, tes amis j'en veux pas. Je veux retrouver mon calme, laisser parler mon cœur, me sentir comme les fleurs de mai. Toujours à moitié dans la fête, à moitié dans le vide. Est-ce que les gens sont sérieux quand ils se sourient? À moitié dans la tête, à moitié sur le fil. Oh mon Dieu, trop souvent je me dis. Toujours à moitié dans ma tête. Les gens je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête.
Yeah. pas du nom. Donne-moi une seconde, je vais considérer la question. Une bonne raison pour sortir à lui faire semblant. Viens, on reste ici, c'est bon. Toujours à moitié dans ma tête, les gens je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête, et toi le ressens-tu? Toujours à moitié dans ma tête, les gens je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête, mon cœur je ressens plus. Toujours à moitié dans ma tête, les gens je les entends plus. Toujours à moitié dans la fête, mon cœur je ressens plus.
Barbie avec ce titre à moitié dans la fête sur les ondes du 94.9, on parle encore de laïcité. Pour terminer cette émission, on vous rappelle l'inauguration de l'esplanade de laïcité à Marny-les-Compiègnes, l'esplanade qui remplace cette petite place qui est devenue une plus grande place, une esplanade. Et notamment, vous pouvez aller voir ce chêne de la laïcité qui est sur cette place. Et avec donc une conférence le 9 décembre prochain, c'est à quelle heure Jean-Pierre la conférence?
À 15h.
À 15h, ça se trouve où du coup? Ça sera sur
la salle du conseil municipal de la mairie qui est donc devant l'esplanade.
On va parler, pour terminer, un peu de réchauffement climatique. Il y aura des réfugiés climatiques qui vont, avec la montée des eaux, des gens qui vont devoir migrer. Ça existe depuis la nuit des temps. Comment aujourd'hui, alors nous on parle de laïcité, c'est un peu dans l'ADN des Français. Hein, on est né avec, on a grandi avec. Mais comment on fait prendre la conscience de la laïcité pour des pays qui n'ont pas du tout, pour des habitants qui n'ont pas du tout les mêmes codes que nous?
Ça va être très compliqué. Mais comme vous l'avez si bien dit, depuis la nuit des temps, l'être humain, tout au moins l'Homo sapiens, n'a fait que migrer, aussi bien d'Afrique, aussi bien du Moyen-Orient, aussi bien de l'Asie, pour trouver des conditions meilleures. Et je crois que les citoyens français ne se rendent pas compte de ce que va être le réchauffement climatique. On a vu récemment la mousson en Extrême-Orient, etc., sous les eaux, plus de 1000 morts en quelques jours. Donc, tous ces êtres humains vont un jour être obligés de migrer, comme cela s'est toujours fait, et ils vont arriver essentiellement en Europe. Et donc, il va bien falloir qui s'habituent aux règles européennes et s'ils viennent en France, aux règles françaises. Et je me pose la question, et je vous la pose aussi à vous, comment, s'ils demandent la nationalité française, est-ce qu'on peut leur donner la nationalité française sans qu'ils soient interrogés sur la compréhension de la laïcité, qui est une valeur essentielle de la République, laïcité qui figure déjà dans la Constitution de 1946 et puis celle de 1958 avec sous laquelle nous vivons, la Ve République, avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Et on dit que la France est une République laïque, indivisible et sociale. Laïque, indivisible et sociale. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, vous m'interrogez aussi sur l'implication des religions. Je dis bien, quand je répète indéfiniment laïque, indivisible et social, je crois qu'il faut appliquer ça et rien d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Mais sur le fait que si on arrive face à un précipice avec une catastrophe, la montée des eaux, des changements climatiques, des catastrophes, des incendies, des étés très chauds, etc. Est-ce que justement les religions n'ont pas un pouvoir attractif beaucoup plus fort? Est-ce que face à la science, les gens ne vont pas se retourner vers la religion pour, entre guillemets, être sauvés du changement climatique? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça?
Ah oui, j'ai très peur. Vous avez raison.
Souvent face, face à la mort, il y en a beaucoup qui se découvrent croyants dans leurs dernières heures de vie en se disant faut que j'absous tous mes péchés presque.
Il y a un dernier film qu'il faut aller voir qui s'appelle L'étranger, qui est une adaptation du livre d'Albert Camus. Et L'étranger est paru de mémoire en 1941, alors qu'Albert Camus avait 27 ans. Albert Camus, qui est un modèle pour moi, parce que Albert Camus, il avait une mère analphabète. Il est né en Algérie, il avait une mère analphabète. Et son instituteur, M. Germain, avait a trouvé chez lui des dispositions particulières. Il y a fait obtenir une bourse. Il est venu en France au lycée Henri IV à Paris, et il a continué toute sa carrière. Donc il a écrit de nombreuses choses. Et Albert Camus a dit... il vaut mieux, alors passe aux religions, je répéterai sa phrase, il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire par rapport à la laïcité. Je répète, il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux.
Jean-Pierre Velsingberg, merci beaucoup d'être venu dans nos studios ce matin. Je vous laisse le mot de la fin. On se retrouve le 9 décembre à 15h, si l'horaire est bon, du coup, à la mairie de Marny-les-Compiègne pour l'inauguration.
À 14h30.
À 14h30 pour l'inauguration de l'esplanade de laïcité à Marny. Un petit mot de la fin ?
Écoutez, un petit mot de la fin, c'est quand même importante. C'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est en pratique ? Il y a eu... Et il y a encore des apports évidents de la laïcité en France. En dehors de la séparation Église-État, on peut citer les registres d'État civil, l'école publique, laïque, gratuite, Jules Ferry, l'intégration qui a été longtemps efficace, les espaces publics, le mariage uniquement civil, si on le souhaite, le Pax et maintenant le mariage pour tous. Et enfin, je dirais quand même... que la laïcité, ça a été. Si, heureusement qu'il y a eu la loi de 1905, parce que je suis intimement convaincu que s'il n'y avait pas eu cette loi, il n'y aurait pas eu les congés payés en 1936, il n'y aurait pas eu la possibilité pour les femmes de voter en 1945. Il n'y aurait pas eu la possibilité pour les femmes d'avoir un compte bancaire en 1960 que son mari soit leur mari soit d'accord. Il n'y aurait pas eu la loi Veil en 1974. Il n'y aurait pas eu la loi sur l'abolition de la peine de mort en 1981, la loi Badinter. Il n'y aurait pas eu la loi Taubira de 2014 sur le mariage pour tous. Voilà ce que je suis convaincu que c'est la laïcité qui a permis toutes ces avancées sociales et sociétales.
Merci beaucoup, fin d'émission. On se retrouve très bientôt sur les ondes du 94.9. Si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable sur le www.graphite.net et on vous rappelle l'application Radio Player sur votre smartphone, télé et puis même dans vos voitures. Allez, bonne journée et puis restez-nous fidèles. À très bientôt. We'll be right back.
me in a way a boy could never touch. Their promise never meant so much to me. You have been warned, I'm born to be contrary. For a week I'd build it up and then I'd turn.